Et même si on a vu que le vélo a mille et une façons d'être utile, il reste encore plusieurs choses à découvrir sur cet univers. Et pour nous aider à bien comprendre le monde du vélo, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio la directrice des programmes chez Vélo Québec, Magali Bebron. Salut Magali.
Allô David.
Pendant ton absence, on a pu découvrir des façons vraiment intéressantes d'envisager le vélo, soit avec le vélo cargo ou le cyclotourisme. Et pour ton retour à l'émission, tu voulais nous proposer d'aborder la question de la mobilité qui est reliée aux soins et aux tâches domestiques.
Oui, voilà. Donc, à la conférence VéloCity qui se tenait à Leipzig un petit peu plus tôt ce mois-ci, il y a eu la présentation d'un rapport par l'organisme BYCS, mais qui s'écrit B-Y-C-S, qui s'appelle Supporting Cycling Uptake for Care Journeys. J'essaie de traduire ça, puis ça donnera à peu près soutenir l'adoption du vélo pour les trajets de soins et les tâches domestiques. C'est tout le concept de mobility of care, puis le terme care, il est très difficile à traduire en français, mais c'est un terme qui a été inventé par Inés Sanchez de Madariaga en 2009. Et en fait, ça s'attarde vraiment au tiers à peu près des trajets qui sont faits pour des raisons de soins ou des raisons domestiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne le transport des enfants à l'école, à droite, à gauche, etc., la visite à la famille, aux parents, aux aidants, quand on était dans naturel aussi, mais aussi toutes ces tâches qui consistent à faire l'épicerie, par exemple, et transporter tout ce dont on a besoin.
C'est ça, la notion de soins est quand même très élargie.
Voilà. Soins, c'est pas très englobant comme l'est le terme care en anglais, mm-hmm. mais c'est à peu près ça. Puis quand on pense que ça représente à peu près un tiers des trajets qu'on fait dans la vie, ben, c'est sûr que ça vaut la peine de s'y attarder. Puis en plus, ce qu'on sait, c'est que 70% du travail domestique à l'échelle globale repose encore sur les femmes. Donc, c'est une notion et une préoccupation qui est à quelque part féministe de se préoccuper de tous ces trajets-là. Ce qu'on sait, c'est que ces trajets, ils sont faits en chaîne. On appelle ça en anglais le chain tripping. Donc, en fait, on enchaîne plusieurs destinations dans un même trajet. C'est-à-dire qu'au lieu de faire juste de la maison au travail, aux études, puis de retour A, B, B, A, en fait, on fait A, B, C, D, A, B. Parce qu'on doit enchaîner toutes ces choses-là. Puis, on passe acheter quelque chose sur le chemin qui nous amène à la garderie de l'enfant pour aller récupérer l'enfant, pour ensuite l'amener peut-être à sa leçon, puis ensuite revenir à la maison. Donc, ce sont des trajets qui sont quand même beaucoup plus complexes, qui peuvent être plus fatigants et qui peuvent être plus chers. Et souvent, ce sont des trajets qui sont mal desservis par les transports en commun, parce que les transports en commun sont encore très, très axés sur les mouvements pendulaires vers le centre-ville et vers le retour, et peut-être pas entre les différentes...
Pour aller justement vers les petits services là, qui sont un peu complémentaires à tout ça.
Exactement. Alors, tout ça, ça donne lieu à ce qu'on appelle une certaine pauvreté de temps, c'est-à-dire qu'on a tellement de trajets à faire que on n'a plus de temps pour soi. Alors, pourquoi se préoccuper de vélo dans cette perspective de mobilité, de soins? On s'en doute, ça permet d'économiser du temps et de l'énergie parce que tous ces trajets-là, on a plus de distance à faire, plus de trajets, on a aussi plus de charges, des enfants à transporter, de l'épicerie à transporter. Et bien évidemment, si on pouvait le faire à vélo, ce serait pas mal plus rapide qu'à pied. On sait aussi que le vélo offre une prévisibilité et une flexibilité. On est capable d'aller du point A au point B plutôt que de devoir marcher jusqu'à sa destination de transport en commun, par exemple, ou chercher pour du stationnement auto. C'est bien sûr beaucoup plus abordable. Et ce que j'ai peut-être pas mentionné, mais c'est que ce rapport-là qui a été présenté, Il s'appuyait sur des expériences qui ont été faites au Mexique, en Inde, en Turquie, donc dans des pays où on a un niveau de vie qui est moins important dans certains cas et où la question de l'abordabilité, pouvoir économiser 7 dollars par jour, c'est immense dans...
C'est significatif, c'est ça, dans certaines cultures.
Tout à fait. Et pourtant, ce sont souvent des cultures où le vélo est très, très peu accessible, en particulier aux femmes. Bien sûr, je passe rapidement sur tout ce qui est bénéfices de santé physique et mentale. Ce que le rapport permet aussi d'appuyer, c'est le fait que se déplacer à vélo, mettons avec son enfant, ça offre tout un tas d'interactions bénéfiques au développement de l'enfant et des opportunités d'apprentissage qu'il n'aurait pas nécessairement s'il était, mettons, dans une auto en arrière. On est beaucoup plus en interaction avec son environnement et donc ça peut aider à créer du lien entre le parent et l'enfant. Et puis enfin, le rapport appuie le fait que ça améliore également le lien social et le sentiment d'appartenance à la communauté parce qu'on interagit beaucoup plus étroitement avec son entourage. Mais bien sûr, il y a plusieurs barrières qui font que les femmes en particulier n'adoptent pas largement encore le vélo malgré tous ses bénéfices et ses avantages. Le premier étant Première barrière étant le manque de compétences et de confiance que les femmes peuvent avoir pour ce type de trajet-là. Ça peut déjà être intimidant de faire du vélo pour soi, mais quand en plus ça implique des enfants, eh bien les préoccupations de sécurité qu'on peut avoir sont encore amplifiées. Selon les pays, il y a aussi un élément de stigmatisation socio-économique, hein, parce que le vélo est encore associé à la pauvreté, c'est-à-dire que les gens qui en font, c'est pas nécessairement un choix, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre option de transport. Alors faire ce choix-là, eh bien ça peut venir avec cette espèce de stigma. Il y a bien sûr également toutes les craintes qui sont liées à la sécurité, mais pas seulement la sécurité de circulation, mais les craintes pour sa sécurité en termes de harcèlement de rue, de violences sexuelles. Il y a beaucoup de pays, puis on a peut-être tendance à l'oublier ici à Montréal, mais où l'espace public, en tant que femme, on évite certains lieux, on évite certaines heures, on fait attention à où on se déplace et quels sont les risques pour notre propre sécurité. Un autre élément qui était mis de l'avant également dans le rapport, c'est la difficulté d'accès à tout un tas d'équipements spécialisés, parce que quand on a à déplacer un enfant, ben idéalement on a un siège enfant sur son vélo, et si on en a plusieurs, ben le véhicule idéal, ça pourrait être un vélo cargo, mais c'est loin d'être accessible, c'est beaucoup plus dispendieux qu'un vélo habituel.
Beaucoup plus lourd aussi, parce que si jamais on habite au 2-3e, il faut considérer qu'il faut le monter, le vélo cargo, puis je suis pas certain que tout le monde est capable de faire ça.
Oui, on peut parler de la crainte du vol. Hein. On sait que même ici, certaines familles vont hésiter à acheter des vélos cargo parce qu'il y a la peur du vol. Puis bien sûr, c'est l'éléphant dans la pièce, mais il y a toujours le manque de sécurité à cause du manque d'infrastructures cyclables, bien entendu. Alors, face à tous ces bénéfices-là que mériteraient de connaître davantage les femmes et les personnes, les aidants qui ont toutes ces tâches à faire, il y avait plusieurs recommandations dans ce rapport. La première, c'est de généraliser les questions de genre dans la recherche pour comprendre en quoi consiste la mobilité de soins et le faire d'une façon qui soit bien adaptée aux différentes réalités. On ne peut pas juste copier-coller les solutions qui existent ailleurs. Mais c'est intéressant de voir que, par exemple, Bogota a vraiment fait une étude genrée un petit peu des déplacements pour arriver avec des solutions intéressantes et adaptées à leur propre réalité. Dans notre propre cas, ce serait important, on le fait déjà en partie, mais que les études sur les déplacements ne se concentrent pas juste sur les trajets vers le travail ou vers les études, mais de bien capturer l'ensemble des déplacements qui sont faits dans une journée. C'est quand même ce que fait l'enquête OD qui se concentre un petit peu sur nos déplacements et qui est faite à tous les 5 ans. Bien entendu, autre recommandation, travailler avec ces aidants et ces femmes pour mieux comprendre leur réalité et les barrières qui les empêchent d'utiliser le vélo. Donc, c'est un peu la question de toujours se demander qui n'est pas sur les pistes cyclables et pourquoi ces personnes-là ne sont pas sur les pistes cyclables. Puis, on peut aller chercher ces gens-là par des organismes qui les desservent. Faut pas penser que les gens qui ne sont pas sur les pistes cyclables, c'est juste parce que ça les tente pas. Souvent, ils vont avoir de très bonnes raisons de ne pas le faire.
Mais c'est ça, puis il y a aussi des solutions. Ces gens-là ont des solutions à amener pour détruire les barrières qui les empêchent d'aller vers le vélo.
Voilà. Et le rapport insiste vraiment sur le fait qu'il faut prendre en compte les réalités locales. Donc, toujours regarder de manière contextuelle qu'est-ce qui pourrait répondre à nos propres réalités. Bien sûr, ils disent également, ça c'est leur troisième recommandation, il faut prioriser la mobilité de soins à vélo dans les plans de mobilité, dans le renforcement des capacités et dans les efforts de communication. Donc, s'assurer que ça ne soit pas un angle mort. Par exemple, représenter les déplacements de famille dans le matériel promotionnel qu'on fait. Donc, vraiment s'assurer de montrer cette réalité et de se poser la question sur ce type de déplacement. Il y a bien sûr toute la question de programmes qui peuvent aider à augmenter les compétences des aidants, mais aussi leur sentiment de compétence. Alors, le rapport cite les exemples du Mexique, de l'Inde ou de la Turquie, où il y a en quelque sorte des programmes d'éducation qui ont été mis en place pour les femmes. Mais on peut penser également à la Belgique ou le programme Tout à vélo qui est mis en place ici et qui permet à des femmes en groupe d'apprendre à faire du vélo. Pour aller plus loin, il faudrait même ajouter des modules pour apprendre à faire du vélo avec un enfant. C'est quand même un équilibre différent. Un enfant qui soit sur un porte-enfant, par exemple, ou qui circule devant ou derrière nous. Également apprendre à porter des marchandises, etc. Et on insiste sur l'importance, dans ces cas-là, de fournir un service de garde pendant les cours parce que les obligations familiales ne font pas de pause quand on veut apprendre à faire du vélo. Voilà beaucoup des recommandations qui sont faites. La dernière étant, il faut fournir de l'équipement adapté. Donc, ça peut être des subventions pour l'achat de sièges pour enfants, pour des vélos cargo, des choses comme ça. Et ce qu'on voit apparaître dans les pays du Sud qui sont vraiment intéressants, c'est des systèmes de vélos en libre-service. Donc, par exemple, imaginez que Bixi ait bientôt des sièges pour enfants sur une partie de sa flotte. Eh bien, ça permettrait à beaucoup des utilisatrices de Bixi, utilisateurs également, de transporter également leurs enfants. Pourquoi pas? Voilà. Donc, petit tour de roue intéressant, simplement de se sensibiliser à ces réalités-là et de s'assurer que quand on pense aux déplacements, on pense à tous les types de déplacements et à tous les types de personnes.
Puis on pense qu'encore là, il y a plusieurs solutions à mettre de l'avant. Puis on voit avec encore plein d'exemples que tu nous as donnés que c'est possible d'imaginer un monde avec plus de vélos et plus d'accessibilité aussi. Magali, je te remercie beaucoup. Puis on se dit à la semaine prochaine.
Bye, David.